d'Aristote, qui a dominé le monde occidental pendant 1800 ans, c'est quand même pas exactement rien. Eh bien, dans la philosophie d'Aristote, on a affaire à une éthique. Aristote a écrit une éthique très puissante, si on veut, une politique aussi très puissante. Et il a écrit cette éthique sans avoir recours à la notion de volonté ou de liberté. Il a fait une éthique, et donc l'éthique qui a dominé l'Occident, cette éthique était une éthique sans liberté et sans volonté. Pourquoi ? Parce que il se représentait, je schématise un peu, mais il se représentait l'esprit humain avec deux facultés, le désir d'un côté, la raison de l'autre, et le but, c'était, le but éthique, si vous voulez, c'était de faire aimer par le désir, donc faire désirer par le désir ce que la raison représentait comme bon. Et là-dedans, il n'y a pas la volonté, si vous voulez. Il n'y a pas une volonté qui piloterait une action, pas du tout. La raison devait, en quelque sorte, informer le désir. Eh bien, c'est cette image-là qui a été bouleversée par la révolution nominaliste, avec cette idée que, justement, la volonté est l'organe de la liberté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se représente, au fond, l'esprit humain, l'organigramme, si vous voulez, de l'esprit humain, comme avec la volonté tout en haut, une volonté qui peut librement choisir A ou B selon son bon vouloir. Non pas selon ce que la raison lui dicte, mais selon son bon vouloir. C'est l'idée d'une volonté qui peut poser elle-même ses propres buts. C'était pas comme ça avant. Les buts, ils étaient donnés à l'avance. Les buts, c'était de s'insérer dans le cosmos, en quelque sorte, dans l'ordre naturel bien hiérarchisé du cosmos. Raison pour laquelle Aristote dit, par exemple, que l'homme est un animal politique. Par politique, il voulait dire l'homme est un animal relationnel, qui est tend naturellement à la relation. Et la communauté politique, par exemple, est une communauté de valeurs pour des individus qui tendent naturellement vers la communauté. Donc, chez Aristote, l'unité de base de la politique, c'est pas du tout l'individu. Ça ne lui serait pas venu à l'idée. L'unité de base de la politique, c'est la relation avec les autres.
Voilà donc la vision de philosophie éthique et politique aristotélicienne qui prévalait jusqu'au XIVe siècle et cette révolution nominaliste. Une révolution qui, selon Marcuniadi, ouvre la voie à l'individualisme, mais aussi au libéralisme politique, économique et façonne la société que nous connaissons aujourd'hui encore.
Aujourd'hui, on est complètement nominaliste. Les droits de l'homme, qui sont évidemment la clé de voûte de notre architecture normative, de notre architecture morale et politique, les droits de l'homme sont entièrement nominalistes avec cette idée que ce qu'il faut préserver absolument, c'est l'individu et en particulier l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle, c'est l'autonomie de la volonté. Donc vous voyez, on est complètement dans ce bain nominaliste. Bon, la philosophie politique s'est très tôt rendu compte qu'il y avait là un problème. Parce que si l'unité de base de la politique, c'est l'individu, comment est-ce qu'on fait communauté ? Comment l'ordre social est-il possible avec des individus, des espèces d'atomes, si vous voulez, dont la volonté part dans tous les sens ? Parce que, justement, ce que disait Aristote, c'est l'homme est un animal politique, donc il tend naturellement à s'assembler, n'est plus vrai. Réponse qu'a donnée la philosophie politique, eh bien, on s'assemble, on fait communauté par contrat. Par contrat social. Si vous voulez, le contrat social, c'est le type de relation qui est parfaitement adéquat à des individus qui ne sont pas naturellement poussés à faire société, mais dont la volonté est souveraine. Donc je veux ou je veux pas, ils veulent ou ils ont intérêt ou pas à entrer en société, et c'est l'idée d'un contrat social où les volontés, hein, c'est l'idée de Hobbes à Rousseau, si vous voulez, c'est ça l'idée, où les volontés s'accordent. Elles sont d'accord parce qu'elles y trouvent chacune son intérêt. Ça, c'est toujours, bon, je ne peux pas entrer dans les détails du contrat social, mais c'est toujours ça l'idée, c'est qu'on a des volontés souveraines qui, finalement, se mettent effectivement d'accord ou trouvent qu'elles ont avantage à se mettre en société.
Donc, si je résume pour les béotiens dans mon genre, la révolution nominaliste fait émerger la notion de volonté chez l'individu qui gouverne à la fois la raison et le désir. Cela n'empêche pas pour autant la possibilité de faire communauté, mais alors par le biais d'un contrat social, une sorte d'accord entre les citoyens qui décident individuellement de s'organiser collectivement, un contrat tacite entre les individus, entre l'individu et l'État, qui permet aux hommes de coexister pacifiquement. Mais comment ce contrat social est-il rendu possible ? Eh bien, grâce à une notion essentielle développée par Rousseau, me dit Marcuniadi, la notion de volonté générale.
Alors c'est quoi la volonté générale chez Rousseau? Contrairement à ce qu'on pense généralement, la volonté générale chez Rousseau, ce n'est pas du tout la volonté de la majorité, la volonté du peuple ou du plus grand nombre. C'est absolument pas ça. La volonté générale, et ça c'est une intuition formidable de Rousseau, la volonté générale c'est une faculté individuelle que vous et moi sommes supposés avoir, c'est la faculté de pouvoir transcender sa propre volonté égoïste, si vous voulez. La capacité de viser autre chose que son intérêt strict. Je vous donne un exemple trivial. Si vous habitez dans un village, vous n'avez pas d'enfants, et la municipalité décide, par exemple, de construire une piscine publique qui, malheureusement, jouxte votre jardin. Vous êtes objectivement embêté, vous aurez plus de bruit, plus de, etc., etc. Mais vous pouvez néanmoins, c'est ça la volonté générale, dire que je vais quand même voter pour cette piscine, parce que c'est bien pour la jeunesse de mon village, les enfants de mon village, etc. Autrement dit, vous avez transcendé ce qui apparaît simplement comme votre intérêt individuel vers autre chose. Cette histoire de transcendance est très importante, parce que Rousseau jugeait justement que pour qu'il y ait ordre social, pour que le contrat social marche, il fallait cette transcendance de soi. Il fallait pouvoir voir au-delà de son strict intérêt individuel, et il y croyait tellement que Rousseau donc nous a attribué en quelque sorte cette faculté spécifique qui serait en nous donc cette volonté générale.
Je crois que je commence à voir où notre philosophe veut en venir. Y a-t-il encore dans nos sociétés au XXIe siècle ce sens de l'intérêt général que postulait Rousseau et qui rendait possible son contrat social, la possibilité pour les humains de faire société? Réponse de Marcuniadi.
En fait, au fil du temps, déjà bien avant les réseaux sociaux et bien avant le numérique, ce sens de la transcendance, alors pour des tas de raisons, s'est érodé. C'est-à-dire qu'une fois que l'individu était en quelque sorte sécurisé dans ses droits et libertés, c'est-à-dire qu'on a reconnu son individualité nominaliste, et qu'avec les deux révolutions américaines et françaises, en fait, on a constitutionnalisé cet individu nominaliste, eh bien, peu à peu, à partir de là, cet individu nominaliste s'est en quelque sorte, je dirais, rabougri un peu sur lui-même, sur son bien-être, sur son sens du confort, que, alors, effectivement, la technique qui se développait, la logique du marché qui rendait accessible une multitude de biens, etc. Tous ces phénomènes ont caressé l'individu nominaliste dans le sens de son plaisir. Autrement dit, cet individu est peu à peu devenu libidinal. Je veux dire par là que ce qui importait de plus en plus pour lui, c'était sa satisfaction. Voilà. Son bien-être, son confort, l'accessibilité d'une grande quantité de biens, le fait de pouvoir voyager, avoir une voiture, c'était une conquête quand même, la démocratisation de la voiture, ça s'est fait peu à peu, etc. On pourrait donc multiplier les exemples pour montrer que peu à peu, eh bien, l'individu, justement, s'est, au fond, replié sur lui-même. Ça veut dire qu'il a, peu à peu, perdu ce sens de la transcendance que Rousseau jugeait nécessaire. Ce sens de la transcendance a été érodé au profit des intérêts, alors, beaucoup plus immédiats, puisque l'individu était, je dirais, éthiquement et politiquement conforté dans ses droits et libertés, qui étaient, en quelque sorte, garantis par l'État, eh bien, chacun s'est... Je caricature naturellement, mais c'est une tendance lourde que je décris. Chacun s'est recroquevillé un peu dans sa bulle de bien-être et donc a perdu ce sens de la transcendance que Rousseau jugeait nécessaire à la vie en commun.
Nous y voilà donc. Pour Marcuniadi, le fait que nos sociétés aient patiemment construit des institutions pour protéger l'intérêt général, pour organiser le contrat social, aurait quelque part permis à chaque individu de ne plus trop devoir se préoccuper de cet intérêt général. Et l'arrivée, par ailleurs, de la révolution industrielle, l'abondance des biens, la société de consommation, ont flatté cet aspect plus libidinal de l'individu, guidé de plus en plus par ses envies, par des désirs individuels. Voilà le tableau. Mais comment Marcuniadi intègre-t-il alors maintenant le web et les réseaux sociaux dans ce tableau ?
Les réseaux sociaux, mais le numérique en général, a formidablement accentué cette tendance libidinale qui était déjà au fond inhérente au capitalisme. Le numérique, avec tout ce qu'il offre, pas seulement les réseaux sociaux évidemment, mais avec tout ce qu'il offre comme marché au fond, eh bien, renforce extraordinairement cette tendance libidinale puisque il offre à portée de clic un maximum de satisfaction. Raison pour laquelle l'individu nominaliste, appelons-le comme ça, a l'impression d'être formidablement libre dans le monde numérique, si vous voulez, parce qu'il trouve des satisfactions incroyables, en quantité incroyable. Ce faisant, l'individu nominaliste oublie, en fait, que sa liberté n'est pas une véritable liberté. C'est une liberté que j'appellerais volontiers une liberté de supermarché. C'est-à-dire, c'est comme dans un vaste supermarché. C'est-à-dire que, effectivement, on peut acheter une foule de choses dans un supermarché, mais enfin, on ne peut acheter que ce que le supermarché a en stock. On peut trouver une foule de satisfactions, mais il n'empêche que c'est le numérique qui formate ces satisfactions. Et c'est très important, je pense, de bien garder en tête cette image du supermarché, parce que c'est un supermarché numérique paramétré par des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est, en fait, tout ce qu'on peut faire est paramétré par d'autres. Donc, en fait, on dépend d'un système dont nous ne maîtrisons pas les paramètres. C'est pourquoi il faut quand même extraordinairement relativiser le degré de liberté qu'on a dans le numérique. Il ne faut pas être aveugle, si vous voulez, à ce caractère, je dirais, unilatéral de l'offre numérique. C'est-à-dire que face au numérique, on est toujours dans la position de quelqu'un qui répond à une offre. Je ne peux faire sur le numérique que ce que le numérique me propose, étant entendu qu'il me propose évidemment énormément de choses. Mais c'est quand même pas moi, en tant que sujet, en tant qu'individu, qui m'ouvre au monde et qui, par curiosité, va découvrir, exerce sa liberté subjective, n'est-ce pas ? C'est le système qui m'offre des choses et moi je dois cliquer pour savoir si je voulais faire ou pas.
Voilà qui nous ramène donc à l'analyse développée en début d'épisode par Antoinette Rouvroy sur la nécessité d'avoir toujours à l'esprit qui se trouve derrière les plateformes, qui paramètre les algorithmes, avec quelles intentions, et que ces intentions ne sont pas forcément toujours en adéquation avec l'idée d'un espace public démocratique, avec la promotion chez les individus d'une idée de transcendance ou d'un souci de l'intérêt général. D'ailleurs, pour Marc Hunyadi, si l'espace numérique tel qu'organisé aujourd'hui et les réseaux sociaux menacent la démocratie, ce n'est pas tant en menaçant les institutions elles-mêmes. On a vu que même très secouées sous le mandat de Trump, les institutions de la démocratie américaine ont jusqu'ici plutôt tenu le coup. Non, pour lui, le problème est en fait plus grave et plus profond que cela.
Une valeur fondamentale de la démocratie, une valeur de base de la démocratie, ce qui l'a fait exister, c'est ce que j'appellerais la recherche coopérative de la vérité. C'est pour ça que la démocratie, au fond, a été instaurée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que personne n'a un accès direct à la vérité. Personne ne détient la vérité. Ni le pape, ni le président, ni n'importe quel expert ou n'importe quel individu. On en tire comme conclusion que ben, le mieux dans cette situation, eh bien, c'est de discuter. C'est ce que mettent en scène tous nos parlements. L'hémicycle, magnifique. Magnifique image architecturale de ce que discuter veut dire. Or, dans le système numérique, dans le système des réseaux sociaux, dans la manière dont est profondément structuré le numérique actuellement, je ne dis pas que, ça c'est très important aussi, je ne dis pas que le numérique est par essence comme ça, mais tel qu'il est structuré actuellement, eh bien, c'est précisément ce caractère coopératif qui est nié jour après jour. Pourquoi ? D'une part, parce que toute la logique de ce numérique vise à la fragmentation en individus. C'est pourquoi le numérique est tellement intéressé à nos profils. Il ne s'intéresse pas à savoir si vous appelez Arnaud Reussen, Marc Hunyadi, où vous habitez, etc. Ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est votre profil. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous êtes susceptible de faire ? Et par conséquent, donc, ils sont sur une logique d'accumulation de tout ce que vous avez fait pour pouvoir déterminer ce que vous allez faire. C'est ça qui les intéresse. Bon, qui dit fragmentation en profil, dit impossibilité de créer du commun.
En somme, le numérique tel qu'organisé aujourd'hui, avec les réseaux sociaux en particulier, n'est pas tant une menace pour les institutions mêmes de la démocratie mais risque de détruire carrément ce qui fonde ces institutions, ce qui a présidé à leur construction, à la constitution de nos démocraties. Mais alors, quelle réponse à tout ça? J'ai bien évidemment posé la question à nos deux philosophes. Et même si leurs pistes de solution ne sont pas exactement les mêmes, elles convergent en fait assez fortement. Pour Antoinette Rouvroy, d'abord, il est urgent d'encadrer, de limiter le pouvoir immense de ceux qui aujourd'hui détiennent les plateformes numériques. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions.
Ce qu'on a inventé pour limiter les puissants, c'est par exemple la notion de constitution. Alors c'est un point de vue très juridique peut-être, mais qu'est-ce qu'une constitution si ce n'est ce texte, une inscription par laquelle ceux qui sont au pouvoir s'autolimitent, et s'autolimitent en vue non pas de leur propre intérêt, mais de l'intérêt du lointain, c'est-à-dire aussi de l'intérêt des générations futures. Un texte constitutionnel a vocation à s'appliquer bien au-delà de la période de vie de ceux qui l'ont signé. Et je trouve que ça, c'est une technique, c'est une autre technologie. Le droit, le langage, l'écriture est une autre technologie qui est extrêmement puissante en ce sens qu'elle peut, elle aussi, agir sur l'avenir. En rendant possible ou en immunisant l'avenir contre une préoccupation ou contre certaines prédations qui seraient motivées par la seule maximisation des intérêts actuels des puissants.
Donc il faut une constitution numérique mondiale ?
Je pense, alors je ne sais pas concrètement comment parvenir à cela, mais je pense qu'on aurait vraiment besoin de ce moment constitutionnel, effectivement, pour obliger les acteurs actuels à préserver, pour ceux qui nous suivent, un monde habitable. Et c'est vrai qu'une constitution, c'est peut-être ce qui serait le plus compréhensible, en fait, hein, parce que tous les États ont des constitutions. Donc stratégiquement, je pense que défendre l'idée, ne fût-ce que l'idée d'une constitution mondiale, ne fût-ce que cette idée, c'est défendre aussi l'idée qu'on ne peut pas tout consommer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit préserver un espace démocratique, un espace de délibération aussi pour l'avenir, qu'on doit protéger les intérêts des générations futures, qu'on doit préserver quelque chose qui soit d'un autre ordre que de la seule optimisation des intérêts actuels.
Marc Ugnadi, lui, va même encore un cran plus loin et parle d'un enjeu fondamental de protection de l'esprit humain.
Notre esprit est en quelque sorte captif, devient captif du numérique et devient entièrement dépendant pour exercer ses différentes facultés, devient captif du numérique. Donc, au fond, l'esprit est privatisé, d'une certaine manière. Je vais un peu vite ici, mais c'est comme ça. C'est au final, l'esprit est privatisé. Si on a tellement besoin du numérique que le numérique est gouverné par une logique du privé, c'est que notre esprit, lui-même, devient, au fond, privatisé par ces géants du numérique. Bon. Raison pour laquelle, je pense qu'il faut voir les choses tout à fait différemment de la manière dont on les voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on les voit à travers, et l'Europe en est un exemple criant, à travers le prisme des droits et libertés individuelles qu'on veut protéger. Je pense que c'est une mauvaise approche. Je pense que ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux du numérique. Donc, l'idée, c'est que faut changer de logique. On ne peut pas privatiser l'esprit humain. Eh bien, je propose par conséquent de dépasser cette logique individualiste dans laquelle nous sommes pris par une autre logique. Je pense qu'il faut dépasser l'individualisme et de faire de l'esprit humain un patrimoine commun de l'humanité, exactement comme on l'a fait pour les grands fonds marins.
Alors ça, je ne l'avais pas forcément vu venir. En quoi la protection des fonds marins peut-elle servir de modèle à la protection de l'esprit humain? En ce sens, me dit Marc Ugnadi, que comme ces grands fonds, à plus de 1000 mètres de profondeur dans les océans, appartiennent à la fois à tout le monde et à personne, qu'ils regorgent de trésors qui attisent les convoitises, il fallait trouver un moyen de les protéger.
On a essayé de trouver un statut juridique pour ça, et on s'est mis d'accord pour déclarer cela patrimoine commun de l'humanité. Patrimoine commun de l'humanité, ça voulait dire que personne ne peut le privatiser. Hein? Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut rien y faire. Ça veut dire simplement que ceux qui veulent y faire quelque chose dans ces fonds marins doivent passer par une autorité préalable, qui s'appelle l'AIFM, l'Autorité Internationale des Fonds Marins, et une autorité de l'ONU, qui juge au fond, ce qui est prévu est dans le bien de l'humanité ou pas. Autrement dit, cette AIFM devient le porte-parole, en quelque sorte, du bien commun de l'humanité, avec des dispositions très intéressantes, qu'on ne connaît pas trop dans le grand public, mais qui sont là, qui sont des dispositions onusiennes, qui font que, un, la recherche qui se fait, ou l'extraction qui se fait, ou quoi qu'il se fasse dans ces fonds marins, doit être au bénéfice de l'humanité, et deuxièmement, les éventuels bénéfices financiers qui ressortent de ces exploitations doivent être redistribués dans des pays, y compris dans des pays qui n'ont rien à voir avec les fonds marins. Donc on a trouvé là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé là des dispositions juridiques tout à fait originales, qui gèrent ce bien qui a été déclaré patrimoine commun de l'humanité. Eh bien, mutatis mutandis, je pense qu'il faudrait faire la même chose avec l'esprit humain. Voilà. Il faut, si vous voulez, que l'esprit humain respire. Il faut qu'il respire.
En somme, s'inspirer de ce qui est fait pour les grands fonds marins avant que nos esprits ne touchent le fond. Redonner de l'oxygène à nos démocraties en cassant les bulles de plus en plus individuelles et libidinales dans lesquelles les géants du numérique isolent les individus. Vaste entreprise, n'est-ce pas ? En tout cas, j'espère que cet épisode pourra aussi trouver son chemin dans cet espace numérique, semer quelques graines de réflexion sur un enjeu de plus en plus criant pour nos sociétés.